L'homme au corps subtil, Maurice Renard. Partie 2 sur 2. Il l'introduisit dans un cabinet cul-de-sac. Les murs et le plafond, le linoléum recouvrant le parquet, la face interne de la portière, enfin, toutes les surfaces de ce local reluisaient de peinture argentine. La fenêtre avait été badigeonnée d'un enduit analogue, translucide comme un dépolissage. On aurait pu se croire à l'intérieur d'un cube d'argent. Au milieu s'érigeait une espèce de ressort à boudin, qui n'en était pas un, puisqu'il était rigide. L'appareil toisait 2 mètres d'élévation. Ses larges spires se constituaient d'un tube de métal enroulé 30 fois sur lui-même et formant une cage cylindrique. 2 fils souples, argentés et tournés en papillotes, partaient chacun d'une extrémité de ce tube. Celui du haut rejoignait celui du bas, et leurs 2 brins tordus en un seul se terminaient par une fiche de contact. On voyait émerger du mur, près de l'entrée, la prise de courant. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la chambre d'argent. « Voilà !» dit Bouvancourt. « L'appareil !» Il toqua la spirale qui rendit un son de cloche impressionnant. Ce fut comme un glas sonné dans un autre monde. Morand questionna le physicien sur la teinte argentée. Il n'aimait pas cela. Le métal blême étalait une pompe funèbre qui l'influençait. « Vous allez vous placer là-dedans, » fit l'opérateur en renversant le haut limaçon. « Et vous ne serez pas surpris quand cela deviendra lumineux. J'en ai pour 1/4 d'heure. » Morand redemanda l'explication de la peinture. « C'est... » répondit le savant, une dissolution préservatrice de la lumière que j'ai nommée lumière Y. C'est une couche prohibitive. Voulez-vous dire que les objets qu'elle abrite ne sont plus traversables par les objets saturés de lumière Y ? Demanda Morand. Non pas. Je veux dire que les objets peints avec la gomme anti-lux, avec cette argenture, échappe à l'action de la lumière Y et que sous ses rayons repoussés par la gomme, ils ne deviennent pas subtils. Ces objets restent ce qu'ils sont au lieu d'acquérir le don d'absolue perméabilité. Grâce à l'antilux que vous voyez ici, l'effet de mes irradiations est confiné à l'intérieur de ce cabinet et les vitres de ces fenêtres ne seront pas rendues traversables. Ce qui serait gênant! Pensez-y, le froid, la pluie, le vent pénétreraient, comme si les carreaux n'existaient pas.
Ah,
oui, c'est vrai, dit Morand. Mais alors, quand on est insaisissable, on sent le vent à travers soi?
Bien entendu,
ajouta Bouvancourt. Allons vite, dépêchons-nous.
Et les coups de couteau et les balles de pistolet et les dents de chien, on les sent aussi?
Forcément! Dit Morand. Forcément, la sensibilité, mais faisons vite. Ma bonne n'était pas là quand vous êtes rentrée. Je préfère que vous partiez avant son retour.
Et les palissades qu'on traverse, poursuivit Morand, inattentif aux sollicitations de Bouvancourt,
et les talus où l'on peut avoir à se cacher. Ah, et le manque d'air. Vous ne pouvez pas respirer dans un talus, il faut donc le franchir dard. Hein? Hey, qu'est-ce que cela ?
Dit Bouvancourt.
« Voyons, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain ?»
Les bras raides, il soutenait la lourde cage spirale.
« Ah, mais c'est que... » demanda Morand.
L'aigre-fin marquant de la perplexité, Bouvancourt redressa l'appareil et lui dit brusquement.
« Après tout, vous avez raison de ne pas vous presser, notre contrat me semble imparfait. » Je comprends bien que vous me trucidez si je refuse d'obéir. Je devine aussi que vous faire prendre ici, dans une souricière, entraînerait sans doute mon exécution par vos subordonnés. Mais en retour de mes services, de ma soumission, qu'est-ce que vous me donnerez?
qu'est-ce que vous me donnerez sur les 1 500 000 francs du comptoir d'escompte ?
Tiens, tiens, goguenarda le voleur.
10 000, ça suffit ?
Bouvancourt tendit la main.
Peste ! La confiance règne ! Repartit Morand. On en recausera. Vous avez ma parole. Au travail.
C'est que...
Au travail, je vous dis.
Morand se tenait debout dans la volute.
Ah, j'y songe. Rendez-moi mes clés, demanda le physicien.
Pourquoi ?
Ça presse ? Je vous les rendrai tout à l'heure.
Ah non ! Tout à l'heure, si vous les conserviez, elles seraient, comme vous, transformées, perméables. Et alors je ne pourrais plus m'en servir pendant 16 heures et 12 minutes.
Oh, mais... s'exclama-t-il tout à coup, d'une façon curieusement soudaine et bruyante.
J'oubliais le principal, moi.
Oh, oh, quel étourdi, voyez-vous. Il faut que je préserve mon individu contre la lumière Y, sans quoi...
Il ouvrit un placard où pendaient quelques draperies argentées. Il choisit l'une d'elles et se mit en devoir de la revêtir. C'était une grande cagoule qui retomba sur lui, le cachant tout entier, comme à jamais. Impénitent. Une figure de procession expiatoire et d'auto-da-fé remplaçait le professeur. Des lunettes trouaient la capuche. Leurs disques de verre étaient argentés comme les vitres de la fenêtre. Les yeux de Bouvancourt voyaient sans être vus derrière ces orbites de crâne, dont la nuance inanimée se perdait dans le tout. Seules les mains restaient nues. Des gants les argentèrent. La robe, trop longue, massait des plis d'argent sur le plancher d'argent. Cette apparition de repentir et de somptuosité se statufiait, telle une allégorie de valeur inestimable, et représentant le De Profundis. En procédant à cette prise d'habit, le physicien n'avait cessé de badiner sur la mine rébarbative qu'on lui verrait une fois costumé. Sa faconde ne tarissait pas, mais prenait sous l'étoffe un timbre amorti, souterrain, quasi sépulcral.
« Vite, vite, les clés !»
dit-il. Sa main de statue passa dans l'intervalle de 2 spires.
« Les voilà !» fit Morand, qui avait légèrement pâli.
« Que je vous les donne maintenant ou plus tard, ça n'a pas d'importance, au contraire » ajouta-t-il en se faisant rire.
« Ceci me prouve que vous n'allez pas m'électrocuter, parce qu'alors vous les auriez reprises après !»«
Justement !»
approuva Bouvancourt.
« Je vois que nous nous comprenons. Soyez en paix. Je vous donne ma parole d'honneur que je vais vous subtiliser. Rien de plus. »
Il retroussa le froc de pénitence, couleur d'absoute, et glissa les clés dans son vieux veston. Morand secoua la maigre tourelle qui l'emprisonnait, de peur qu'elle ne fût tout à coup rivée au parquet. L'engin remua, se balança, répandit une musique de campanile céleste.
« Il faudra ne toucher à rien pendant l'irradiation, »
recommanda le pénitent.
« Mon solénoïde vous gèlerait grièvement. Tenez-vous droit, bien au centre. Vous y êtes ? 1 quart d'heure. »
Il ramassa le fil souple qui traînait, planta la fiche dans la prise de courant. Aussitôt, on eût dit que le soleil venait de se multiplier. Aussitôt, la spirale s'illumina d'un éblouissement qui était au grand jour ce que le grand jour est au clair de lune. Elle devint un éclair de féerie, continu, montant, giratoire. Un serpentin de feu blanc lovait ses anneaux splendides autour de Morand. Cette lumière veloutait le contour de la tubulure incandescente. Elle parcourait sa vrille de la base au sommet avec une rapidité fulgurale. Ainsi, la machine paraissait tournoyer dans une ascension frénétique. Morand fermait les yeux. Il resplendissait. Si jeune et si beau, si méchant, si pâle et si radieux, il fut le vivant portrait de Lucifer, un grain de sable avant la chute. Aucun grésillement d'étincelle. Le miracle s'accomplissait dans une humble simplicité. La couleuvre ignée vissait infatigablement au sein du repos sa montée immobile. Du froid se fit sentir, elle en rayonnait. Morant, les oreilles entr'ouvertes et clignotantes, parla le premier.
Rudement pas chaud là-dedans, mais je ne sens rien d'autre. Est-ce comme cela qu'il faut que ça se passe? Est-ce que ça ne vient pas petit à petit, la subtilité?
Non,
répondit la voix d'outre-terre.
Au bout d'un quart d'heure, quand le point de saturation se trouve atteint, subitement, vous êtes en état. L'insaisissabilité ne comporte pas de degré.
Mais, objecta l'être surensoleillé, donnant à ses inflexions toute leur fraîcheur juvénile,
je ne comprends pas très bien.
Le pénitent leva le bras dans une attitude sacerdotale.
Il est préférable que vous gardiez le silence.
On obéit. Bouvancourt tenait sa montre. De ses deux mains, serrées l'une contre l'autre, il lui faisait un abri contre le rayonnement.
Plus que 12 minutes. 11. 10.
Le foyer réfrigérant continuait d'abaisser la température. Le physicien savait que des feuilles de givre commençaient à doubler le vitrage. Le patient grelottait. Bouvancourt alla s'adosser au mur, à gauche et presque derrière lui. Ses dents menaient, sous la capuche, à un claquement de castagnettes, et des frissons le galvanisaient, jetant de ci, de là, ses mains jointes. D'un ton laborieux, les mâchoires tremblantes, il déclara qu'il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur du Serpentin, ce qui était un mensonge.
8, 7, 6.
Le silence, rompu de loin en loin par des roulements de voitures et de tramways, se rétablissait avec empressement. Alors, les bruits familiers de la maison donnaient en sourdine leur brave petit concert domestique. Une machine à coudre s'activait au rez-de-chaussée. L'entrechoc des bouteilles sortait du soupirail de la cave. À l'étage supérieur, des pas intermittents. Et pendant cela, dans la chambrette ardente et polaire, aux murailles comme en fusion, la merveille suivait son cours, et le serpent de clarté continuait d'enrouler sa trompe incantatoire autour du charmant criminel.
3, 2, 1.
Tout à coup, sans qu'on entendût rien de plus, le réprouvé s'enfonça dans le parquet 1000 fois plus vite que le Méphisto de l'opéra. Le temps de choir, il avait disparu. Ni trou, ni trappe. Et cependant, il n'y avait plus personne au milieu de la spirale qui vainement persévérait. Le pénitent, affalé dans un coin, se comprimait le cœur d'une étreinte crispée. Tous les murmures de l'intimité se taisaient, sauf les pas au deuxième étage qui allaient et venaient comme antérieurement. Bouvancourt se traîna le long du mur et coupa le courant. La spirale s'éteignit. On aurait supposé que le soir était venu, pourtant une horloge sonnait 10 heures et le jour blanchissait les carreaux épaissis de givre. Le savant dépouilla son domino macabre et reparut dans la solitude. Était-ce bien lui? Était-ce un homme? À ses gestes automatiques, à ses mains de craie, à son masque de plâtre, qui aurait soutenu que c'en était un? Mais il ruisselait d'une sueur glacée, donc c'était un homme. Il dit « Justice est faite » et se mit à pleurer. C'était donc Bouvancourt. Il pleura dans la chambre d'argent. Puis, ne voulant pas rester seul avec son secret, il a couru chez moi. Quand il eut fini son histoire, ma femme et moi,
Nous le regardâmes sans comprendre et nous l'écoutions gémir désespérément.
J'ai tué quelqu'un. Moi j'ai tué, voulant le faire. J'ai fait exprès de tuer un enfant, peut-être une femme. Je suis un homicide. Ah, sans Breuil, quelle horreur, n'est-ce pas?
Et c'est que je ne saisis pas trop ce qui est arrivé, dis-je. Bouvancourt me fixa d'un œil dur et presque méprisant.
J'avais plus d'estime pour votre savoir et votre pénétration,
je repris. Certes, je vois bien que Morand a traversé le parquet, mais pourquoi, puisque vous, quelques jours plus tôt...
Ah, j'y suis, vous l'avez trompé. L'opération n'était pas celle... Taisez-vous. Je n'ai trompé personne, je l'ai subtilisé comme il était convenu. Seulement, je l'ai subtilisé dans les deux sens du terme. Voyez-vous, sans Breuil, moi, mardi... Je m'étais bien gardée de me traiter in extenso. Pendant mon irradiation, j'étais chaussée de bottines badigeonnées d'antilux. Alors, mes pieds sont restés ce qu'ils furent depuis ma naissance, c'est-à-dire impuissants à traverser les autres solides comme à se laisser traverser par eux. Songez donc qu'une fois gorgée de lumière Y, il ne m'était plus permis de m'appuyer contre un arbre. Je l'eusse traversé. Si j'avais tenté de mettre mon pardessus et mon chapeau... Tous deux auraient dégringolé à travers mon anatomie, exactement comme au travers d'un corps de fumée. Croyez-vous, même, que j'aurais pu les saisir avec mes doigts? Et non! Mes mains subtilisées étaient incapables de prendre quoi que ce fût, d'agir sur quoi que ce fût. Et voilà pourquoi j'avais prié ma bonne de m'ouvrir la porte et d'attendre mon retour quand je suis sortie. Tourner un bouton, tirer une sonnette, pas moyen! Je n'étais bon qu'à marcher ou donner des coups de pied. Enfin, je n'avais plus d'action matérielle que pédestre. Vous comprenez que dans un état pareil, je ne pouvais décemment sortir que la nuit. Et quand je suis rentrée, si vous saviez, impossible de me coucher. Quelque envie que j'en éprouvasse, car c'était effrayant. Mon corps eut traversé le lit, le plancher et tout, jusqu'à ce que mes bienheureux pieds l'eussent enfin retenu. Mais comment alors, dans cette posture, comment me dégager sans force ? Sans même de toucher, tant soit peu efficace. Ah, l'étrange nuit passée debout, dans l'oisiveté, transparent au choc, diaphane pour le tact, ainsi qu'un vrai fantôme. Je tombais de fatigue, et je n'avais pas le droit de m'asseoir. D'après mes calculs, défectueux, la subtilité devait se prolonger 10 heures. Jugez de mon angoisse pendant les 6 heures supplémentaires que sa possession m'infligea. C'est à ce moment que vous vînmes me voir, sans Breuil. Je ne pouvais pas vous donner la main, je n'avais pu ni m'habiller, ni me débarbouiller convenablement. L'eau me traversait. Mais il est juste d'ajouter que rien n'avait eu le pouvoir de me salir depuis que j'étais intangible, la poussière ne se déposant plus que sur mes chaussures. Ah, mes chaussures, ah, mes pieds, quel trésor en cette occasion. C'est que fichtre, insaisissable ne veut pas dire impondérable. La pesanteur agissait toujours sur la masse de mon physique et le sollicitait sans merci.
Alors, fis-je épouvanté, Morand. Bouvancourt avala son 3e verre de ratafia.
Morand. Lui. Oh, madame, quand j'y pense. Morand, lui, sur sa demande et par mes soins, a été préparé dans sa totalité. Morand, lui, n'avait plus au bas de sa personne deux membres bien grossiers, deux objets de bonne et ferme chair. Il n'avait que des pieds immatérialisés sous le rapport du contact, des choses sans appui. Tout son corps est devenu soudain traversable et traverseur, à l'exemple d'un corps pétri de rayons X ou plutôt de lumière Y et... Comme la pesanteur.
Alors, ajoutai-je. Alors, continua Bouvancourt. Il perdit pied, tombant vers le centre de la terre, plongeant, coulant à pic au sein du gouffre épais.
Il a traversé d'abord le plancher, puis la machine à coudre d'une ménagère, qui s'évanouit à la vue de ce prodige indistinct. Puis, sans même la souffler, la chandelle d'un tonnelier qu'il avait des bouteilles dans ma cave. Ensuite, il a franchi les couches géologiques, sans pouvoir se raccrocher nulle part, aussi désarmé contre l'ambiance, lui, l'homme éthéré, tombant dans un milieu solide, qu'un homme banal précipité dans l'atmosphère. « Enfin, qu'est-ce qu'il est devenu ?» demanda ma femme passionnément. « S'il existe un feu intérieur, son compte est bon, » proféra Bouvancourt. « Sinon, je ne doute pas qu'il ait été asphyxié pendant cette plongée, cette inhumation qui tient de l'immersion. Pas d'air à respirer là-dessous. » « Dans ce cas, » repris-je, « son cadavre serait juste au centre de la Terre ?» « Je ne crois pas. Je suis même sûre qu'il n'y est pas en ce moment où je parle, ou s'il y est, c'est qu'il y passe seulement. Vous comprenez, il faut compter avec la force acquise. Morand tombait vers le centre de la Terre à peu près en chute libre, avec une vitesse uniformément accélérée. Il y est donc parvenu au train d'un malheureux qui s'abîmerait sur le sol d'une hauteur de 6371 km. Un élan de cet acabit ne s'amortit qu'au bout d'un certain temps, et le pauvre diable, dépassant le point d'attraction, poursuivit son trajet en ligne droite, au-delà du centre, vers les antipodes. Mais alors sa force acquise luttait contre la force de gravité. Son élan ne suffisait pas à lui faire atteindre la surface opposée du globe, et parvenu sans doute à quelques lieues de cette surface, Morand, dont la course s'était ralentie progressivement, s'est mis à retomber vers le centre de la Terre, qu'il a dépassé de nouveau pour revenir du côté de Pontargis. Cela peut durer fort longtemps. Afin de mieux comprendre, figurez-vous quelqu'un jeté dans un puits diamétral, une cheminée transperçant la planète. Après 100 et 100 va-et-vient de plus en plus réduits, le cadavre de Morand s'arrêterait enfin au centre de la Terre, si 16 heures et 12 minutes suffisaient à la consommation de l'affaire. Mais 16 heures et 12 minutes ne suffiraient pas, et tout à coup, redevenu tangible, brutalement immobilisé dans une de ces chutes effroyables, pris, enlisé, pénétré, envahi, broyé, cellule par cellule, amalgame subi de roc, d'argile et de viande, le misérable restera éternellement bloqué dans la pâte profonde. Ma femme, qui a de l'imagination, ne craignit pas d'en témoigner. « Attendez donc !» s'écria-t-elle. « Pour peu qu'il y ait une mer aux antipodes, Morand s'est noyé !» Bouvancourt esquissa, du coin de la bouche, une moue éplorée. « Madame, il serait mort avant, mort étouffé. Du reste, nous chicanons à plaisir, attendu que l'existence du feu intérieur est démontrée. L'incinération de Morand ne fait pas l'ombre d'un doute, car j'ai pu fabriquer un homme spectre, mais pas un homme salamandre. J'ai vaincu la résistance des solides, des liquides et des gaz, mais non leurs autres défenses, non leur enveloppe qui asphyxie. J'ai vaincu l'eau qui mouille, non l'eau qui noie, mais non le feu qui brûle. C'est une mort épouvantable. C'est une exécution, rectifiai-je. Dieu merci, Bouvancourt merci d'avoir désorganisé la bande à Morand. Mon invention n'aura servi qu'à cela. Voyez-vous, en dernière analyse, elle ferait plus de mal que de bien. Mauvaise, qu'elle disparaisse. Je brûlerai ce soir mes calculs et mes notes et je détruirai la spirale. Rien ne doit subsister. Morand ne parlera plus. Et vous, mes chers amis, je vous demande sur l'honneur de ne pas compter cette histoire avant 10 années révolues. Nous dûmes en passer par là. Je promis à contre-cœur les 10 ans de réserve, sans comprendre pourquoi l'invention serait alors impossible à retrouver. S'il arrive que mon lecteur soit un Berthelot, ma lectrice une Curie, peut-être apercevront-ils ce que je n'ai pas discerné. Mais peut-être aussi
me tiendront-ils rigueur d'avoir fait un serment qui gruge la science d'une richesse considérable? Je l'ai prêté parce qu'on ne peut rien refuser, dans certaines crises, à certains suppliants. La surexcitation de ce paisible et sage Bouvancourt faisait peur. Il ne se lassait pas de nous redire les transes qu'il avait subies pendant son dialogue avec le beau scélérat, dont la parole était suave. Les alternatives de justice et de pitié qui l'animaient. Sa torture entre ses devoirs et ses émotions, son dégoût de l'indispensable comédie tragique, et comme il appréhendait, à chaque minute, que ce demi-savant frotté de physique ne tombât sur la vérité. Il raisonnait d'une manière si naïve, remarquait Bouvancourt, et si dangereuse à tort et à travers. 50 fois j'ai pensé tout perdu. Par bonheur, il était fasciné par la cause finale, hypnotisé par le but. Quelle faute! Passer la main dans un coffre-fort à travers la porte et le vider, mais voyons, est-ce qu'il aurait pu saisir l'or et l'argent? Et s'il avait empoigné ces piles de louis et d'écus, est-ce qu'ils auraient traversé la paroi du coffre, eux, qui n'étaient pas plus subtilisés que cette paroi? Jamais! Jamais! Quant aux pieds, vraiment, c'était l'ABC de la déduction. Ah, sans Breuil, la honte d'abuser ce pauvre niais et le supplice de mentir à cet enfant que j'allais prendre au piège de ma naïveté, au piège de ma fausseté. Ah non, je n'étais pas née pour être bourreau. Je lui dis gravement, une main sur son épaule et les yeux dans les yeux, « Mon ami, ne croyez-vous pas que c'est votre tour de raisonner faux ? Vous avez purgé la terre d'un monstre. Vous tenez d'Hercule, de Thésée et de celui qui précipita Lucifer aux flammes éternelles, comme vous avez fait du nouveau Satan. Bouvancourt, il me semble que vous devriez ressentir une grande satisfaction divine. » Oui, soupira le physicien, je suis bourrelé de satisfaction. Et comme j'insistais sur le caractère fabuleux de l'événement, il me démontra que c'était une illusion. « Pensez, dit-il, que nous pouvons plonger dans la terre. C'est aussi naturel que penser, peut-être existe-t-il des créatures incapables de traverser l'air et de voyager parmi les gaz. La proposition n'est pas anti-scientifique. Loin de là. » Il poursuivit. On a toujours vu les solides se surnager l'un l'autre, et voilà des siècles que l'humanité flotte à la surface du monde. S'ensuit-il que je doive nier la possibilité du contraire? Pas du tout. Jusqu'à ce qu'un homme ait enfoncé dans la rivière un bouchon de liège, tous les bouchons de liège pouvaient croire que l'eau leur était aussi imperméable que la terre aux humains. Or, voilà. Ce que cet homme a fait au bouchon, moi, je l'ai fait à Morand. » Ce nom murmuré, Bouvancourt perdit le fil de sa pensée. Il s'abandonna au cours d'une préoccupation d'où je me gardais bien de le tirer. Car, peu à peu, il prenait le visage de science, de force et de mansuétude que je souhaite voir au Tout-Puissant, si nous devons quelque jour nous trouver face à face.
The subject stands with head up tilted on a chin rest, chest flat against a polished square plate, takes a deep breath and holds it for 2 seconds. The 1500-pound apparatus, which uses standard film like this, is capable of photographing 100 chests an hour. The twin processes of radiography and photography are thus linked together.